Bonjour, ici Dominique Pauvret de la Fondation La Cause, département handicap visuel. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir pour cette émission Michaël Tan. Michaël, qui se présentera un peu plus longuement tout de suite, est un invité exceptionnel dans la mesure où il va nous parler de son expérience personnelle de l'accueil dans l'Église des personnes déficientes visuelles. En effet, Michaël est aveugle de naissance. Donc je le laisse d'abord se présenter et dire quel a été son parcours pour rentrer dans une Église et surtout rencontrer le Seigneur.
Bonjour, je vous remercie de m'accueillir et de me donner cette occasion de m'exprimer. J'ai un grand plaisir vraiment de partager mon expérience. Donc, je m'appelle Michaël Tan, je suis analyste des flux comptables au Crédit Lyonnais. Et voilà, je suis baptisé depuis juin 2019, 44 ans, divorcé avec deux enfants. Je suis donc maintenant dans une église donc dans laquelle j'étais baptisé en 2019. Je suis dans cette église depuis 2017 et je suis membre à part entière de l'église dans laquelle j'ai plaisir à servir et de fréquenter les frères et sœurs qui sont qui sont de passage ou qui sont membres de l'église.
Voici une présentation extrêmement efficace, Michaël. Alors, je voudrais en venir à ton processus de conversion. Cette rencontre avec Dieu, comment s'est-elle passée? Comment l'as-tu vécue?
Oui, j'ai donc en 2014 rencontré Samuel qui, dans une queue pour participer à un concert. Et donc, il m'avait tout de suite pris, en amitié. Hein. Il avait bien vu mon handicap, mes difficultés, c'est ça, à faire la queue, etc. Et donc, il a fini la soirée avec moi. On a fini la soirée ensemble au concert. Et après, ensuite, il m'a partagé qu'il était chrétien. C'est vrai qu'en 2014, moi, j'avais une vie très rempli entre le travail, les enfants, la famille. C'est pas quelque chose qui m'avait touché. Et puis bon, j'avais pas besoin de connaître Dieu, je cherchais pas Dieu, j'étais comme ça bien rempli au niveau de ma vie spirituelle, intellectuelle, voilà. Bon, Samuel, il me relançait régulièrement en me disant, il m'invitait à des anniversaires, il m'invitait à des fêtes religieuses ou à l'église, il m'avait invité plusieurs fois, et c'est là que j'ai eu des problèmes familiaux que je me suis mis en question et j'ai recherché quelque chose de plus fondamental, de plus solide, un rocher, quelque chose de une ancre que je peux sur laquelle je peux m'appuyer ou qui puisse m'orienter dans la vie. C'est vrai que j'étais un peu déboussolé par les pertes de repères. Voilà, hein, quand on a des chocs familiaux qui arrivent, des difficultés, eh bien, c'est là. Donc j'avais plus de temps, hein, puisque voilà, j'étais plus seul, plus souvent seul. Et donc, c'est là que j'ai accepté les différentes invitations. Et c'est ainsi que j'ai entendu les premiers chants de louange. Alors, j'ai trouvé ça très joyeux, voilà, alors que moi, je ne l'étais pas forcément tout le temps. Et puis, j'ai trouvé une grande convivialité, une chaleur humaine qui était très présente entre les participants. Et aussi, j'ai appris plus tard que c'était la fameuse communion fraternelle. Moi, je ne connaissais pas ces termes-là avant. Mais voilà, c'est vrai, un sens de solidarité. Et puis, j'ai été très accueilli. Samuel, à chaque fois, me disait... je t'attendrai à tel arrêt de bus, si tu peux venir jusque-là. Il a bien compris que pour un non-voyant, se déplacer, les derniers mètres sont toujours les plus compliqués, en fait. Parce que les transports en commun, ça va, on peut les prendre, il y a du monde pour s'enseigner. Mais pour arriver au dernier mètre, c'est difficile. Et donc, il m'avait tout de suite accompagné. Et donc, c'est comme ça qu'il m'accompagnait régulièrement, qu'il m'a accueilli et accompagné régulièrement dans les différentes cérémonies religieuses ou fêtes ou cultes.
Michaël, je voudrais te poser une question par rapport à la question de ta déficience visuelle, comment est-elle intervenue dans ton questionnement à Dieu, dans ta relation à Dieu?
C'est vrai que quand je me suis mis à lire la parole, à lire la Bible, et à commencer ma recherche de Dieu, c'est vrai, c'est une question qui m'est venue assez rapidement. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi, si c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime, qui m'aime, c'est vrai, pourquoi m'a-t-il créé avec un handicap? Et, eh bien, j'ai donc lu plusieurs passages dans la Bible et, avec grande surprise, je me suis aperçu que dans la Bible, il y avait beaucoup de passages qui reprenaient les aveugles, des aveugles, que ce soit Bartimée, que ce soit cet aveugle avec ses parents, etc., où les disciples lui demandent si c'est de sa faute ou si son péché ou c'est de ses parents qui est handicapé comme ça. Et à chaque fois, Jésus, en fait, a répondu que c'était pour glorifier Dieu, que ce soit par ses guérisons ou que ce soit ou pour montrer comment Dieu intervient à travers les déficients visuels et les aveugles. Donc moi, c'est vrai que c'est une question que je me suis appropriée en me disant, mais si c'est pour glorifier Dieu, comment est-ce que je peux le glorifier avec pas mon handicap? Comment je peux faire pour montrer ce grand Dieu merveilleux? Comment il peut être merveilleux à travers moi? Eh bien, déjà, la réponse, elle est venue, hein, par le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je me suis dit rapidement que, franchement, si je ne connaissais pas Dieu, comme avant, je pense que, enfin, j'étais assez fondée sur moi-même, cherchais toujours à me glorifier moi-même, être comptable, être auteur de mes réussites et tout ça. Et en fait, donc, à chaque fois, je cherchais toujours l'étape suivante ou le prochain challenge. Et du coup, ça me met dans tous les sens. Et finalement, je ne savais pas où j'allais. Eh bien, grâce à Dieu, je sais que maintenant, je peux faire des choses. Par exemple, le travail que je fais, je suis le seul non-voyant du service. J'ai été à chaque fois le seul non-voyant dans les établissements scolaires où j'étais, parce que j'étais en intégration, en milieu ordinaire, que ce soit à la faculté, etc. Donc, je me dis, mais en fait, je glorifie Dieu comme ça. Et les gens, à chaque fois, étaient très étonnés, très surpris. Même à l'église, quand je suis arrivé au début, beaucoup de gens, enfin, tout le monde se questionnait comment je fais pour me déplacer, comment je fais dans la vie quotidienne. Comment je fais pour lire la Bible, etc. Comment je fais pour voyager, parce que j'aime beaucoup voyager. Eh bien, je me dis qu'en fait, de par ma façon de vivre, en cherchant à vivre comme tout le monde, en ayant mes passions, mes envies et tous mes souhaits, de vivre comme tout le monde, ben finalement, je glorifiais comme ça. Que je pouvais, malgré ma déficience, faire comme je voulais et que Dieu était là pour, à chaque fois, m'accompagner, me guider, pour voir les aides que j'avais besoin, les guidages ou les astuces, les trucs et astuces qui m'étaient nécessaires pour m'arriver ou pour m'en sortir.
Si j'ai bien compris, Michael, vous donnez à cette notion de glorification de Dieu un double sens. Celle d'abord de la mise en relation avec les autres, nécessaire et souhaitable pour que vous puissiez réaliser vos souhaits, et deuxièmement, cet élan que vous ressentez grâce à l'amour de Dieu, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai, être handicapé et déficient visuel, ça oblige à aller vers les autres, parce qu'on a besoin d'aide à différents moments de sa vie ou à différents endroits. Quand on est perdu au milieu de la rue, dans un métro, lors d'une correspondance, dans des gares aussi grandes que Châtelet ou La Défense, c'est vrai qu'on a besoin, oui, de demander de l'aide. Et ça m'oblige à une grande humilité. Parce que je sais que je dépends de ce que Dieu va me, des personnes que Dieu va me faire rencontrer sur mon chemin. Et ça, je me rends compte maintenant à quel point je dois le remercier à chaque fois, parce que j'ai toujours rencontré des personnes extraordinaires. Parce que c'est vrai que les personnes qui viennent nous m'aider, c'est forcément quelqu'un qui est volontaire, qui a, je pense, déjà un bon esprit. Parce que ceux qui courent à côté et qui font semblant de pas me voir, il y en a aussi beaucoup. Et du coup, glorifier Dieu, c'est vrai que c'est aimer son prochain, parce que c'est vrai que moi, la personne qui m'aide, forcément, ça me pousse à apprécier son apport et aimer Dieu, parce que je sais que Dieu pourvoira à chacun de mes besoins au moment voulu.
Merci de nous rappeler, Michael, que c'est en dans la rencontre avec son prochain qu'on rencontre Dieu également. Très pratiquement, quand vous avez fait vos premiers pas dans l'Église, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé de façon très pragmatique, très concrète?
Pour aller à l'église une première fois, donc cet ami-là m'avait tout simplement étudié l'itinéraire au préalable et m'a dit, bah écoute, tu habites à tel endroit, parce qu'il était déjà venu chez moi, on s'était déjà rencontrés. Et donc il m'a dit, bah tu prends le bus 60, tu vas à l'église de Borrego, tu descends à l'arrêt Borrego, tu vas aller, et là je viendrai t'attendre en bas de l'arrêt. Et du coup, c'est à partir de là que plusieurs fois, de cette façon-là, que j'apprends, que j'ai appris à repérer mon chemin. Petit à petit, à me familiariser avec voilà, les traversées, les trottoirs, tout ça, et à repérer donc l'entrée de l'église et donc à venir ensuite régulièrement au culte. Ensuite, cet ami m'a tout simplement installé à côté de lui au début. Bien sûr que les débuts, hein, quand dans un nouveau milieu, dans un nouvel endroit, quand on ne voit pas, on a souvent besoin d'être, je dirais, accompagné, d'être guidé, qu'on nous décrive aussi l'environnement, hein, voilà, un peu comme une visite de propriété finalement. Et donc c'est là que il m'assoit à côté de lui pour le culte et il se met à me lire les paroles des chants de louange. Et voilà, donc ensuite. Petit à petit, les frères et sœurs des autres de l'église, les autres frères et sœurs, ont bien vu que bah voilà que j'avais que c'était aussi bien que je puisse chanter. Et donc, à tour de rôle, ou simplement parfois, celui qui était assis à côté de moi quand je changeais de place et quand je venais par moi-même, que celui-là ou celle-là se mettait à me lire les paroles des chants. Voilà, et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, je commence à cerner les lieux, hein, entre bah, les différentes salles, les toilettes, etc. Et donc après, bah, petit à petit, je prends mon autonomie dans les lieux, et puis maintenant, voilà, hein, que j'y suis depuis 3-4 ans, eh bien, je connais bien les lieux, et je suis assez autonome, et c'est vrai que ça c'est toujours remarquable, et les gens sont toujours émerveillés, ils me disent ça, mais bon, pour nous, c'est quelque chose d'assez habituel ensuite. Comme n'importe qui, hein, qui s'habitue à un endroit.
Michael, est-ce que votre église a fait des investissements ou a mis en place des équipements particuliers pour vous accueillir au cours des cultes et dans les activités?
Rien de très visible, mais bon, en tout cas, il y a une bande podactyle, donc en face des marches. Avant que j'arrive, hein, ils y sont. C'est vrai que c'est un bon point de repère pour les marches descendantes. Sinon, ensuite, voilà, j'ai rapidement demandé, si possible, à avoir, par exemple, les chants en amont, parce que ça me permet déjà de m'imprégner un peu des paroles en les écoutant sur YouTube, par exemple. Donc voilà. Donc du coup, ils m'ont abonné, par exemple, bah, à la mailing list des musiciens. Donc comme ça, le président de culte envoie les chants aux musiciens et comme ça, moi, je sais les chants qui vont être chantés. Et puis, après, pareil pour les textes ou les versets à lire. Voilà, tout se fait par mail ou sur des groupes au WhatsApp. Donc c'est vrai que du coup, j'ai accès sans problème et ce qui me permet de lire la Bible, enfin les passages de la Bible dans mon téléphone de façon audio avec l'appli la Bible voilà, sur l'iPhone, par exemple.
Michael, vous avez été baptisé en juin 2019 et il est de coutume de choisir soit un verset, soit un extrait à l'occasion du baptême. Quel a été votre choix et pourquoi?
Pour me faire baptiser, mon passage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai retenu, que j'ai choisi pour mon baptême, c'est le passage concernant Jacob sur Pénèle, là où il s'apprête à traverser la rivière et il lutte avec un ange jusqu'au matin. Et donc il sort de cette lutte handicapé à la hanche. Et ce passage m'a beaucoup parlé parce que bon, Jacob, c'est quand même un personnage auquel je m'identifie un peu, hein, parce que voilà, il comptait beaucoup sur lui-même, il avait beaucoup été béni, il discutait, il négociait avec Dieu, hein, parce qu'il avait dit si, dans un passage précédent, il disait ben voilà, Dieu, je saurais que tu es mon Dieu si tu voilà, si tu me bénis, si tu voilà, si tu m'aide, etc. Et bon, et puis il a quand même trompé son oncle, etc. Enfin, avec les son bétail. Donc voilà, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup sur lui. Hein. Et donc il lutte. Donc il a cet endroit hein, où il doit traverser. Et il lutte, voilà, une bataille longue, difficile. Et moi, c'est vrai, dans ma vie, j'ai beaucoup lutté. J'ai beaucoup lutté pour arriver à avoir mon Master 2 dans des conditions voilà, où il n'y avait rien à l'époque pour les handicapés visuels. Il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait pas, voilà, pas comme aujourd'hui, il n'y a pas la loi de 2005 hein, qui aide maintenant, qui donne des aides aux déficients visuels avec des assistants, etc., des assistants de vie scolaire, etc. Bon, moi, j'avais rien de tout ça. Et puis, une lutte aussi pour trouver un travail, arriver à s'insérer, voilà. Au quotidien, finalement. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup identifié. Et puis, Jacob, il en sort handicapé quand même. Et il en sort avec un autre nom. Il devient Israël après. Donc, oui, on est transformé par nos luttes. Moi, je crois que j'ai été transformé par Dieu. Et les luttes que Dieu m'a fait rencontrer dans la vie. Et donc, il sort de ses luttes handicapé, alors qu'il était venu tout à fait en pleine forme, très bien, voilà, même plutôt sûr de lui, etc. Et il sort de cette lutte donc handicapé, et il sait que dorénavant, il doit compter sur Dieu. Son handicap, quelque part, lui a enlevé son assurance, lui a enlevé sa totale validité. Il devient maintenant dépendant de Dieu, il boite. Et oui, il doit s'appuyer sur Dieu, comme il s'appuie sur une canne pour marcher. Moi, cet handicap que j'ai m'a appris, donc, bah, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vrai, à compter sur Dieu maintenant, à aussi faire ma part, bien entendu, mais surtout à compter sur Dieu et à toujours croire que ce que Dieu prévoit pour moi, eh bien, c'est ce qui est bon pour moi et c'est ce qu'il y a de plus grand. Donc c'est pour ça que ce passage, je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui encore, je m'y réfère parfois quand je lutte à différents moments de la vie et quand je sais que Dieu, pour l'instant, ne m'a pas répondu sur certains domaines, certains sujets de ma vie. Mais je lutte et j'attends au moment où Dieu me libérera de cette lutte.
Merci Michaël pour cette belle interprétation et intégration dans votre vie personnelle de ce passage biblique. C'est vrai que la lutte avec l'ange, ça reste un des passages les plus mystérieux et les plus porteurs de sens dans la Bible et dans l'Ancien Testament. À présent que vous avez été accueilli au sein de l'Église, quels sont vos engagements ?
Je suis engagé en tant que membre à part entière dans l'Église. Voilà, j'ai demandé à faire partie des membres. J'accueille le groupe de maison chez moi, le groupe de quartier. Voilà, j'ai vraiment grand plaisir à recevoir et aussi du coup, je reçois aussi beaucoup de j'organise souvent des fêtes ou des soirées à la maison. Voilà, avec les frères et sœurs de l'Église. Donc oui, chez moi, c'est parfois un lieu festif avec mes enfants, tout ça. Donc c'est super convivial chez moi. Ensuite, à l'église, je fais aussi l'accueil des nouveaux membres ou des nouvelles personnes, hein, des nouveaux arrivants. C'est vraiment un grand plaisir à discuter, à découvrir les personnes et à leur parler des activités de l'Église. Et je participe évidemment aux agapés et aux jeûnes et prières, etc. Et voilà, je vis ma vie d'Église et pleinement et j'essaie d'y participer comme je peux avec mes contraintes, je pense, et aussi de contraintes familiales, mais aussi de disponibilité, de temps et aussi parfois de mes capacités.
Pour clore cet entretien, Michaël, vous serait-il possible de partager avec nous un message que vous voudriez faire passer à tous ceux qui nous écoutent, voyants ou non-voyants?
Je tiens à dire, c'est vrai que pour les personnes déficientes visuelles, il ne faut pas qu'elles hésitent vraiment à aller dans les assemblées églises, dans les différentes églises qui sont plus près de chez elles, les locales, dans les lieux de culte qui leur sont pratiques, enfin du moins si elles sont proches de chez elles, parce que vraiment ça les enrichira de la relation avec Dieu et aussi de la relation avec l'Église. Elles seront vraiment bénies par les rencontres qu'elles feront. Et donc, il faut vraiment qu'elles n'hésitent pas à aller dans l'église la plus proche et à exprimer ses besoins, à dire, voilà, moi, peut-être que c'est un peu difficile pour traverser tel endroit, ou peut-être, voilà, qu'elles disent, faut pas avoir peur, je pense. Quand on est handicapé, je crois qu'on a une force. C'est la force de rendre toute personne utile. C'est la force de proposer à chacun de nous rendre service, de nous faciliter la vie, en fait. Et je crois vraiment que ça, les gens le font par plaisir. Oui, être utile, c'est une forme d'égoïsme, et ça peut faire plaisir. Voilà, et c'est pour ça que les personnes défiantes ne s'inquiètent pas à demander, qu'elles ne se sentent pas diminuées parce qu'elles demandent de l'aide. Au contraire, on y gagne à être aidé, parce qu'on pourra passer du temps plus facilement, plus harmonieusement en relation avec les autres, au lieu de rester dans la souffrance et dans un problème peut-être facilement réglable, enfin qu'on peut facilement régler. Et ensuite, pour les voyants, pour les personnes voyantes, moi je pense que vous voyez ce qui se passe. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à comprendre, à cerner ce que la personne non-voyante peut avoir besoin ou ce qui pourrait l'aider, la faciliter, et à venir tout simplement proposer l'aide, votre aide, tout simplement à suggérer telle ou telle facilité ou aide ou assistance. Faut pas avoir peur, je pense. Vous savez, l'handicap, on peut y être tous confrontés tôt ou tard au cours de la vie. Donc si Dieu vous met dans votre assemblée une personne handicapée, c'est pour vous dire que vous êtes ou pas capable de vivre comme Christ, qui a toujours accueilli et jamais, jamais rejeté une personne handicapée, qui a toujours répondu toutes les personnes handicapées qui sont venues à lui. Donc, je pense que l'Église s'enrichit d'une personne handicapée, d'un membre handicapé, parce que c'est vrai que c'est un ajustement spécifique qu'il faut faire à la personne qui rejoint l'assemblée, qui rejoint la communauté. Certes, cette personne, elle est à part, elle est différente. Mais justement, l'Église qui saura accueillir cette différence, elle sera pleinement, je pense, en Christ. Parce que Christ a accueilli les personnes les plus marginales de la communauté. Ensuite, je pense que pour faciliter la vie d'une personne handicapée, je crois qu'il faut clairement quelqu'un qui lui sert comme, je ne sais pas, de tuteur, de référent, quelque chose comme ça, pour que la personne, quand elle a un besoin spécifique, quelque chose à partager, qu'elle n'aille pas chercher avec les différents membres de l'Église, différents frères et sœurs de la communauté, qu'elle n'exprime pas son besoin. Ça peut décourager qu'elle n'ait pas exprimé ses besoins X fois. Peut-être, voilà, à parler avec une seule personne, et cette personne-là, parce qu'elle connaît l'Assemblée, parce qu'elle est plus ancienne, parce que elle est bien implantée, elle pourra orienter la personne plus facilement. Et du coup, je pense que ça ne peut que, comment dirais-je, attacher la personne handicapée à l'Église. Ça ne peut que lui faciliter, la fréquentation de l'Église. Donc, la personne s'enrichit aussi en proposant ses services qu'elle peut donner. On a tous des dons, c'est vrai. Donc, même les personnes handicapées ont des dons spécifiques. Alors, beaucoup d'handicapés visuels sont des musiciens, sont des chanteurs, etc. Bon, moi, c'est pas mon don. Mais moi, mon don, c'est plutôt le calcul financier, c'est vrai. Et la convivialité, etc. Donc moi, c'est pour ça que je reçois un groupe de maison chez moi, parce que j'aime bien recevoir, j'aime bien partager la convivialité. Et j'organise souvent aussi des moments conviviaux. Donc, on a tous une part à exprimer de soi, une part de soi à exprimer dans les différents endroits qu'on va. Et donc, à l'église spécifiquement, je pense que toute personne vraiment, handicapée y compris, peut apporter à la communauté sa personnalité et sa richesse.
Quand on est handicapé, on a une force, la force de rendre toute personne utile. C'est sur ce bon mot. Et sur ce mot très fort que je voudrais prendre congé de vous, je vous remercie, Michaël, et je donne rendez-vous à nos auditeurs au prochain enregistrement de la Fondation La Cause, département handicap visuel.
Oui, merci Dominique, au revoir et merci à la cause. Soyez bénis et au revoir tout le monde.
Cette émission a été proposée par Dominique Pauvray, directrice du département handicap visuel de la Fondation La Cause, avec comme invité Michaël Tan. Vous pouvez contacter la Fondation La Cause au 01 39 70 60 52 en semaine. 01 39 70 60 52. Vous pouvez nous écrire Fondation La Cause, 69 avenue Ernest Joly, JO2LY 78 955 Carrière sous Poissy. Notre adresse mail www.lacause.org. Notre adresse mail direction @lacause.org. La Fondation La Cause propose 4 départements d'action. Le département handicap visuel, avec une bibliothèque sonore et braille à disposition librement et gratuitement pour toute la France et l'ensemble des pays francophones envoyés en franchise postale. Un département enfance, avec adoption, parrainage, aide au développement. Un département d'accueil et d'accompagnement pour les solos, avec des séjours organisés, des rencontres hebdomadaires dans toutes les régions de France. Le département solo est aussi un département qui s'occupe des couples, avec des sessions pour les couples, des formations d'accompagnement conjugal. Et puis, le dernier département, c'est celui des éditions, éditions protestantes, avec de la musique, avec des films, des livres, de la littérature très diverse, pour tous les âges et sous de nombreuses formes de genres littéraires. À très bientôt. Au revoir.